Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
C'est un martyr de la liberté. Pour caricature, pour une photo, on décapite quelqu'un. Mais on est où? C'est pas l'islam, c'est pas la religion.
Ils dénoncent haut et fort cet attentat mené au nom de leur religion. Des imams ont rendu hommage cet après-midi à Samuel Paty devant le collège où il a été assassiné. 15 personnes sont ce soir en garde à vue, dont 4 collégiens suspectés d'avoir aidé le terroriste à identifier le professeur. Nous ferons un point complet sur l'enquête dès le début de ce journal. Gérald Darmanin a demandé ce matin sur Europe 1 la dissolution de plusieurs associations, dont le collectif contre l'islamophobie en France. Nous entendrons la réponse de son représentant, choqué d'être traité d'ennemi de la République. Nous entendrons également la colère froide de l'avocat de Charlie Hebdo. Il dénonce le manque de courage politique dans le combat contre l'islam radical. Dans ce journal également, le scénario alternatif proposé par le gouvernement à Bridgestone, jusqu'à 560 emplois sauvegardés sur le site de Béthune. Et puis le retour demain de la Ligue des Champions, 2 mois après sa finale perdue. Le PSG a-t-il digéré son échec? On verra ça à la fin de ce journal. Le temps de demain, beaucoup de nuages, de vent et de pluie sur la moitié ouest, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris a clôturé en retard à cause d'une panne. Le CAC 40 progresse très légèrement de 0,14% à 4942 points. Tous les détails à venir avec Didier Hamot de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Emmanuel Duteil reçoit ce soir Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH, au sujet du nouveau protocole sanitaire en entreprise. Et puis on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
3 jours après l'assassinat de Samuel Paty, les enquêteurs tentent de lever de nombreuses zones d'ombre. Qui a fait quoi exactement? Depuis quand le terroriste préparait-il son passage à l'acte? 15 personnes sont désormais en garde à vue. Gladys Laffitte du service police-justice nous a rejoint. La question centrale que se posent les enquêteurs, Gladys, c'est: est-ce que le tueur a agi seul?
Oui, est-ce qu'il a bénéficié de complicité et surtout à quel degré? L'une des personnes placées en garde à vue aujourd'hui a déjà été condamnée pour des faits de terrorisme. Elle a déclaré spontanément avoir été en contact avec le tueur peu de temps avant les faits. Mais à ce stade, on ne sait pas quel rôle exactement cette personne a joué. Les enquêteurs cherchent aussi à établir si le terroriste a bénéficié d'une aide financière. Ce que l'on sait en tout cas à ce stade, c'est qu'il a donné de l'argent à des adolescents présents devant le collège vendredi, quelques heures avant l'attaque. Au moins 300 euros distribués comme une récompense pour lui désigner Samuel Paty. 4 collégiens sont actuellement en garde à vue sur ce volet. Les enquêteurs tentent de déterminer le rôle de chacun. Et selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait du propre argent du terroriste. Reste à savoir comment il se l'est procuré.
Autre question, Gladys. Est-ce que cet attentat a été prémédité?
Oui, prémédité, certainement. Mais la question, c'est depuis quand? Ses proches semblent en tout cas ignorer sa radicalisation. Mais ils ont évoqué l'obsession du terroriste les jours précédant l'attaque. Pour les vidéos de ce père de famille et du militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, ils appelaient à se mobiliser contre l'enseignant après le cours sur la liberté d'expression. L'une de ces vidéos a même été relayée sur le compte Twitter du tueur. Il a aussi contacté le père qui avait donné son numéro dans l'un de ses enregistrements. Une prise de contact établie par les enquêteurs, sans que pour le moment on ne connaisse ni la teneur ni l'intensité de leurs échanges, et surtout si le terroriste avait fait part de son projet à son interlocuteur.
Précision signée Gladys Laffitte pour Europe 1. Au sommet de l'État, en tout cas le message est martial, la peur doit changer de camp, a déclaré Emmanuel Macron, qui a reçu cet après-midi les représentants du Conseil français du culte musulman. Dans le même temps, plusieurs imams de la région parisienne sont venus se recueillir devant le collège à Conflans-Sainte-Honorine où enseignait le professeur. Se recueillir et dénoncer haut et fort cet attentat mené au nom de leur religion, Hélène Terzian.
Effectivement, une dizaine d'imams, celui d'Épinay, un imam du 15e arrondissement de Paris, sont tous venus déposer des bouquets de roses blanches qui se sont ajoutés à l'amas de fleurs qui s'accumulent désormais sur le parvis du collège. Un hommage à Samuel Paty qui s'est achevé par une prière de quelques minutes. L'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi, est à l'initiative de ce rassemblement.
C'est un martyr de la liberté. C'est un martyr. Il a enseigné la tolérance. Il a le respect de l'autre. Pour caricature, pour une photo, on décapite quelqu'un. Mais on est où? C'est pas l'islam. C'est pas la religion. C'est l'islamisme. C'est le poison de l'islam.
Et pour le combattre, l'imam de Drancy va justement dans le sens de la volonté de fermeté annoncée par le gouvernement. Il appelle aussi à un sursaut de la communauté musulmane. Aïcha est la maman d'un élève scolarisé dans le collège de Samuel Paty. De confession musulmane, elle salue l'initiative des imams aujourd'hui.
Ils ont raison, ils ont bien fait de venir ici. On prie, je vais prier avec eux s'il le faut. L'islam est une religion de paix. On ne peut pas tuer au nom de la religion. Ce n'est pas possible. C'est horrible. Ce qui s'est passé, c'est horrible. Nous, musulmans, on ne cautionne pas cet acte.
Et les imams présents aujourd'hui appellent les recteurs des mosquées, tous les autres imams ainsi que les responsables associatifs à agir avant que d'autres actes barbares ne soient commis.
Hélène Terzioran à Conflans-Sainte-Honorine pour Europe 1 où une marche blanche aura lieu demain soir. Elle débutera à 18h30 au collège Le Bois d'Aune. Un hommage national est également prévu mercredi. Il aura lieu dans la cour de la Sorbonne en fin d'après-midi, précise l'Élysée. Un choix qui a été fait en accord avec la famille du défunt, reçu ce matin par Emmanuel Macron. Hommage national que vous pourrez suivre sur Europe 1, édition spéciale mercredi soir à partir de 18h. En parallèle de l'enquête sur l'attentat, un vaste coup de filet a été lancé dans les milieux islamistes pour faire passer un message. Pas une minute de répit pour les ennemis de la République, a déclaré ce matin Gérald Darmanin sur Europe 1. Le ministre de l'Intérieur a annoncé des contrôles renforcés pour 51 associations et demandé la dissolution de plusieurs structures, parmi lesquelles le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France.
Voilà une association qui a été manifestement impliquée, puisque le père, je mets des guillemets, qui a mis en vidéo et qui a lancé une fatwa contre ce professeur, il n'y a pas d'autre mot, fait référence très clairement à cette association. Je souhaite, parce que nous avons un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser qu'effectivement, c'est un ennemi de la République.
Ennemi de la République, dissolution, une mesure qui serait totalement infondée, selon Jawad Bachar, le directeur du CCIF.
C'est très choquant, parce qu'il n'existe aucune base aujourd'hui pour justifier une telle mesure. Par contre, sur le plan de la communication du gouvernement, aucun étonnement, puisqu'il est dans une continuité du discours d'extrême droite à l'égard des associations antiracistes. On ne sait pas ce qu'on nous reproche précisément. Il y a le contexte récent de l'attentat auquel je tiens à préciser que le CCIF exprime sa condamnation la plus totale. Et on nous reprocherait peut-être d'avoir enflammé les choses, entre guillemets, alors que nous n'avons aucun lien dans la communication de ces événements. Là, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est une attitude du gouvernement qui vise simplement à restreindre ses libertés, notamment de cette association qui est une association antiraciste, apolitique et religieuse.
Le directeur du collectif contre l'islamophobie en France, joint pour Europe 1 par Justin Morin. Baraka City, l'autre association ciblée par Gérald Darmanin, annonce ce soir par la voix de ses avocats qu'elle contestera en justice une dissolution administrative. Rien dans nos activités ne permet de suspecter un quelconque lien avec une activité terroriste, peut-on lire dans le communiqué. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur demande ce soir la fermeture de la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis, mosquée qui avait relayé la vidéo dénonçant le cours de Samuel Paty. Cette attaque terroriste est la deuxième qui survient depuis le début du procès des attentats de janvier 2015. Un hommage a été rendu au professeur assassiné à la reprise de l'audience ce matin. L'avocat de Charlie Hebdo, maître Richard Malka, a lui regretté l'absence de volonté et de courage politique dans le combat contre l'islam radical. Un aveuglement qui ne date pas d'hier, selon lui.
Ils n'ont pu prospérer que grâce à cette arme de destruction massive de notre République que sont les accusations d'islamophobie constante qui permettent depuis 20 ans à l'islamisme de pénétrer tous les milieux. On a laissé faire, on veut des actes, on a besoin que les pouvoirs publics ne soient plus tétanisés par ces accusations d'islamophobie. On a besoin que chaque fonctionnaire de ce pays soit investi d'une mission de respect de la laïcité et d'alerte quand il y a des atteintes à la laïcité. On a besoin que notre président de la République, que notre premier ministre agissent. Vous savez, ce n'est pas un excès de fermeté qui a conduit à cette situation, c'est un excès de compromission. Ce sont nos renoncements, c'est le déni de la réalité. Ça fait 20 ans qu'on nous insulte et que l'on nous dit qu'il n'y a pas de problème. Bah si, il y a des problèmes.
L'avocat de Charlie Hebdo, maître Richard Malka, au micro Europe 1 de Chloé Triomphe. Reste la question du retour en classe après les vacances scolaires. Comment parler de cet attentat aux élèves ? Jean-Michel Blanquer a reçu les proviseurs des collèges et des lycées ce matin. Le ministre de l'Éducation nationale leur a présenté son plan d'action. Objectif, pas d'improvisation et surtout pas de négociation avec le respect de la minute de silence qui sera observée. Message reçu par la proviseure Sylvie Persson, secrétaire générale du SGEN CFDT.
la consigne ou le mot d'ordre, je ne sais pas comment on peut le qualifier, c'est plutôt de ne rien laisser passer. On sait faire aussi la différence entre ce qui va être de l'ordre de la provocation ce jour-là et qui aura une réponse éducative, y compris disciplinaire derrière. Il n'y a pas, je pense, de réponse unique à donner, mais effectivement, faire confiance aux équipes sur le fait qu'il faut renforcer la vigilance, ne rien lâcher et effectivement répondre à toute forme de provocation, qu'elle soit à haut bruit, j'ai envie de vous dire, ou à bas bruit. Et puis, il y a ensuite l'éducation qui doit se poursuivre, rappeler ce qu'est la laïcité, ce qu'elle nous permet de vivre, comment elle nous permet de nous exprimer, revenir sur la liberté et construire et aider à la construction de l'esprit critique de nos élèves.
Sylvie Persson, proviseur et secrétaire générale du SGEN CFDT, jointe par Angèle Châtelier.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h10 sur Europe 1, merci d'écouter le journal de la nuit. C'est un dossier hautement symbolique et explosif pour le gouvernement. La fermeture annoncée de l'usine Bridgestone de Béthune, une catastrophe sociale en perspective que veut à tout prix éviter l'exécutif. Voilà pourquoi un scénario alternatif a été proposé aujourd'hui à la direction du numéro 1 mondial du pneumatique, projet industriel qui permettrait la sauvegarde de plus de la moitié des emplois. Lionel Gougelot, vous êtes notre correspondant dans les Hauts-de-France. Cette proposition, c'est une petite lueur d'espoir pour la ville et la région.
Effectivement, et le principal atout de ce plan de sauvetage élaboré avec un cabinet d'expertise, c'est qu'il permettrait de limiter la casse sociale en préservant jusqu'à 560 emplois sur les 863 que compte l'usine de Béthune, avec un investissement d'environ 100 millions d'euros. Et le soutien de fonds publics, le site se transformerait pour produire 3 millions de pneus mieux adaptés au marché. Agnès Pannier-Runacher, la ministre chargée de l'industrie, espère que cette proposition convaincra Bridgestone de revenir sur la fermeture pure et simple.
C'est un scénario qui suppose des gains de productivité allant entre 25 et 40% de gains de productivité. Et c'est ce scénario que nous souhaitons étudier jusqu'au bout avec Bridgestone.
La balle est donc désormais dans le camp du manufacturier japonais. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, reste vigilant.
Il ne faut déjà pas que Bridgestone nous claque la porte au nez comme ça a été le cas depuis le début de ce dossier. Donc maintenant, ce qui est important pour nous, c'est que ce scénario-là puisse être étudié par Bridgestone et qu'il nous dise rapidement si c'est oui ou si c'est non. Si c'est non, on va rentrer dans un bras de fer pour obtenir le maximum, à la fois pour les salariés et pour des emplois. Parce qu'on ne part pas comme ça en France.
Dans un communiqué cet après-midi, Bridgestone confirme qu'il est prêt à examiner la viabilité de ce scénario, mais l'avocat des salariés tempère. J'espère simplement, dit-il, qu'ils ne vont pas nous balader pendant 3 mois pour finalement fermer le site.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Et justement, pour aider les entreprises fortement impactées par la crise sanitaire, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 20 milliards d'euros. Elle servira via des prêts participatifs au renforcement des fonds propres des entreprises en difficulté. Les chiffres de l'épidémie poursuivent leur flambée. Plus de 1400 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées ces dernières 24 heures. 269 patients supplémentaires sont entrés en réanimation, un record depuis le mois de mai. La barre des 2000 lits de réa occupés par des malades Covid est franchie. Le taux de positivité continue lui également sa flambée. Il est ce soir de 13,4% contre 9% il y a seulement 12 jours. Et c'est dans ce contexte que le ministère de la Santé élargit l'autorisation des tests antigéniques plus rapides que les PCR. Ils n'étaient jusqu'ici autorisés que pour les personnes ne présentant pas de symptômes et dans le cadre d'opérations collectives de dépistage. Ils peuvent désormais être réalisés pour tout le monde, même pour les symptomatiques, à condition qu'un test PCR ne puisse être obtenu avant 48 heures. Il n'y a pas qu'en France que la deuxième vague fait des ravages. La Belgique a mis en place dès aujourd'hui un couvre-feu entre minuit et 5 heures du matin. Et puis le Pays de Galles décrète un confinement de 2 semaines. Il entrera en vigueur vendredi. C'est le premier pays européen depuis le printemps à recourir à cette mesure radicale. On termine avec le foot et le retour de la Ligue des Champions. 2 clubs français vont jouer demain soir. Le Stade Rennais accueillera les Russes de Krasnodar. Quant au PSG, un gros morceau pour commencer, Manchester United. Julien Froment, les Parisiens ont été battus en finale de cette même Ligue des Champions il y a seulement 2 mois. C'est le genre d'échec qui prend du temps à digérer. Julien, est-ce que les hommes de Thomas Tuchel sont passés à autre chose ?
Eh bien, ça peut paraître étonnant, mais le Paris Saint-Germain veut surtout capitaliser sur cette finale perdue à Lisbonne en août dernier. Oui, c'est une défaite, mais c'est surtout la première fois que le club atteint ce stade de la compétition, au terme d'une saison quasi parfaite avec 4 trophées remportés sur la scène nationale. Pour l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, plus pragmatique, hors de question de comparer la saison passée avec celle qui vient.
On a eu une équipe super forte pendant la saison dernière. Mais comme j'ai dit, c'est du sport. C'est fini, cette Ligue des champions de la saison dernière, c'est fini. Et on doit montrer encore si nous sommes plus forts, moins forts. Ce n'est pas la question maintenant. On doit montrer et après la saison, on peut répondre à cette question-là, pas maintenant.
Pourtant, il y a des similitudes. Le Paris Saint-Germain va se présenter demain soir au Parc des Princes amoindri contre Manchester United sans Marco Verratti, Mauro Icardi ou encore Juan Bernat. L'an passé, en ouverture de cette même Ligue des champions, le PSG avait joué contre le Real Madrid sans ses stars Mbappé et Neymar. On connaît la suite, une victoire 3-0 contre le Real et ce parcours incroyable dans le Final 8. C'est donc tout le mal qu'on peut souhaiter au PSG pour cette saison 2020-2021.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1. PSG, Manchester United, match qui se jouera à huis clos. Raison de plus pour écouter Europe 1 demain soir, édition spéciale menée par Lionel Rousseau à partir de 20h sur notre antenne. A noter qu'Edinson Cavani, le tout nouveau attaquant de Manchester United, ne fera pas son retour à Paris. L'Uruguayen, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, n'a pas été retenu dans le groupe mancunien. La météo, Anissa Haddadi, changement de temps pour demain.
Ah oui, ça y est Julien, hein, les nuages et la pluie sont de retour demain avec des Ardennes à la Gironde en passant par la Normandie, la région parisienne, les pays de la Loire, la façade atlantique, donc sur une belle moitié ouest du pays. Le ciel est couvert demain matin avec des averses dès le début de la journée. À l'avant de cette perturbation sur la moitié est, le temps reste sec avec quelques éclaircies. C'est finalement de l'Alsace à la Côte d'Azur qu'il fera le plus beau demain. Dans l'après-midi, le temps est toujours agité sur la moitié ouest avec l'arrivée d'un épisode Cévenol également dans le sud. Le vent de sud-sud-est souffle toujours sur une grande partie du pays et le vent va souffler très fort sur les Pyrénées. On parle de vent tempétueux pour demain. Les températures, elles sont un petit peu moins froides le matin avec 4 à 11 degrés sur la moitié nord, 10 à 15 degrés sur la moitié sud et puis dans l'après-midi, 14 à 22 degrés, 15 pour Paris, 17 à Saint-Étienne et Metz, 18 à Limoges, 20 à Bastia et Périgueux, 21 pour Ajaccio et 22 à Biarritz.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Emmanuel Dutheil reçoit ce soir Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH, au sujet du tout nouveau protocole sanitaire en entreprise. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, merci d'écouter le journal de la nuit.
Et maintenant, Top à Wall Street est présenté par Audi Occasion Plus, le label qui vous garantit de profiter longtemps de votre Audi, quel que soit son âge.
Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street débute la semaine en baisse, toujours dans l'attente d'un accord de relance budgétaire.
Forte baisse même, hein. Oui, ça s'est accéléré en fin de journée. L'accord de relance budgétaire se fait toujours attendre effectivement entre démocrates et républicains qui n'en finissent pas de négocier. Le Dow Jones corrige d'1,43%, 28 197 points. Le Nasdaq, forte baisse, moins 1,65%, 11 479 points. Et donc, ce sont les valeurs de technologie qui donnent le ton ce soir. Ça s'est accéléré en fin de journée avec des baisses de l'ordre de 2% pour tout le monde, on va dire. Tesla, moins 2%, 430 dollars. Facebook, moins 1,7%. Apple, moins 2,5%. Apple retombe à 116 dollars. Amazon, moins 2% aussi. Microsoft, moins 2,5%. Il y a quand même une résistance. C'est Netflix qui est stable, 530 dollars ce soir. Et Intel qui remonte légèrement de 0,8%. Le pétrole se stabilise. Pas beaucoup de mouvements autour des 40 dollars. 40,85 le baril WTI. Et l'euro, à peu près stable aussi. Indice 7,70 face au dollar.
La bourse de Paris a, quant à elle, terminé en légère progression, mais après une panne.
Grosse panne, oui, 3 heures quand même. Interruption de cours ce matin pendant 3 heures et donc une petite hausse symbolique. Il ne s'est pas passé grand-chose par la force des choses. Plus 0,14% sur le CAC 40, 4 943 points donc à l'issue de cette séance très perturbée. Les valeurs industrielles qui avaient rebondi en fin de semaine dernière retombent. Holot, moins 4%, Schneider, moins 1,5%, l'Air Liquide, moins 1%. En revanche, quelques grands noms de la cote ont tenu la barre, comme Sodexo, plus 2%, ou LVMH, plus 2% aussi avec Vinci. Tout cela n'est pas très significatif, on y verra plus clair demain.
Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé au cours de cette panne ?
Il n'y a pas eu beaucoup d'explications, il y a eu un gros plantage, comme on dit.
Une panne technique.
Du côté de chez Euronext, ça a duré 3 heures ce matin jusqu'à midi, ça a beaucoup gêné en tout cas. Et on a même annulé toutes les cotations après 17h30. Alors du coup, on était un petit peu en baisse en fin de journée, puis finalement, comme on a annulé les dernières cotations, on s'est retrouvé légèrement en hausse, ça ne veut pas dire grand-chose.
Il y a une valeur qui a légèrement progressé, c'est celle de Danone.
Oui, alors 53,44 plus 0,2%. président Danone, qui a fait part d'un chiffre d'affaires très résistant, 5,8 milliards d'euros au troisième trimestre. C'est conforme aux anticipations malgré la crise. Le groupe agroalimentaire vise une marge opérationnelle courante cette année de 14%, c'est pas mal, et ça fait donc monter de 0,2% le titre Danone, qui s'en sort plutôt pas mal, 53,44€ ce soir. Sur les autres places financières en Europe, il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Bruxelles, moins 0,07, Milan, moins 0,08, Londres, moins 0,06 quand même. On rappelle le CAC 40 en hausse légère, 0,14% de mieux, 4 943 points.
Merci Didier Hamoud, boursier.com, et à demain.
À demain.
22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco.
Tout de suite, retrouvez l'invité éco avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Benoît Serre.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le vice-président de l'ANDRH. L'ANDRH est l'Association Nationale des DRH. Si on a voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est que le ministère du Travail a présenté un nouveau protocole sanitaire pour les entreprises. C'est une évolution des règles qui vous sont imposées en ces temps de Covid. La principale innovation de ce protocole, c'est que l'on vous enjoint de discuter autour du télétravail avec vos collaborateurs. De façon très concrète, vers où va-t-on pour le télétravail au sein de vos entreprises ?
On n'a jamais vraiment arrêté d'en discuter. Là où on a été un petit peu déçus, pour être tout à fait honnête, quand on a entendu le président de la République dire ça, il a dit dans la même phrase qu'il faisait appel au bon sens et que les entreprises sur le terrain devaient trouver des solutions pour mettre en place le télétravail 2 ou 3 jours, comme vous l'avez dit. Et puis, très très rapidement, comme d'habitude, le système a repris le dessus et on a appris le lendemain matin qu'il y avait une obligation de trouver 2 jours de télétravail.
Pour être très clair sur cette obligation, puisque effectivement le Premier ministre a été beaucoup plus ferme et la ministre du Travail, ouais, Elisabeth Borne également, c'est réellement coercitif ? Qu'est-ce qui arrive aux entreprises si elles ne mettent pas en place ce télétravail de 2 jours minimum ?
C'est ça qui n'est pas très clair en fait. Parce que vous savez que juridiquement, une entreprise n'est pas obligée de recourir à un accord pour mettre en place ce télétravail. Elle peut le faire juste avec une charte. C'est le premier point. Le président de la République, d'ailleurs, a dit il faut négocier sur le terrain un accord télétravail, alors que rien dans la loi ne prévoit que vous êtes obligé de passer un accord. Ça, c'est une première chose. Donc le niveau de coercition, il est assez faible. Dans le protocole sanitaire, maintenant, c'est inscrit dedans.
Pour être très clair, une entreprise qui ne souhaiterait pas mettre en place le télétravail, même si elle est dans une activité qui le permet, si elle ne le fait pas, elle ne sera pas condamnée, attaquée, etc. etc.
Elle ne peut pas être sanctionnée, parce que si c'est opposable de la part d'un salarié, le protocole éventuellement, en aucun cas c'est une obligation au sens légal du terme. Par conséquent, cela étant, la plupart des entreprises qui peuvent faire du télétravail, on continue à en faire.
C'est vrai que la plupart des entreprises aujourd'hui sont d'accord si ce n'est pas 5 jours par semaine. Deux jours par semaine, c'est plutôt la norme aujourd'hui pour les entreprises qui appliquent le télétravail.
Oui, vous savez que la norme avant le Covid, c'était 1,8. Là, on est à 2,1, 2,2. Mais quelquefois, vous avez des entreprises qui s'y refusent, non pas parce qu'elles sont contre, mais parce qu'elles ont un corps social qui se répartit de manière inégale entre ceux qui peuvent faire du télétravail et ceux qui ne peuvent pas. Et donc, vous avez une difficulté de gestion des ressources humaines, puisque vous avez un corps social éclaté en deux. Donc, c'est pour ça que ce sont des choses qui se manipulent avec une forme de prudence.
Quand vous dites un corps social, soyons clairs, des cols blancs dans les bureaux qui peuvent facilement télétravailler et des ouvriers à l'usine qui, eux, par définition, sont bien obligés d'être au bout de la chaîne.
Vous avez ça, et puis vous avez aussi quelquefois des équipes qui ne peuvent pas télétravailler quand le manager le peut. Quel sens ça a en termes de management d'avoir un manager à distance et des équipes sur site ? Voilà. Cela étant, on est remonté, on est à 15% à peu près aujourd'hui de télétravailleurs. On imagine que dans les zones écarlates, on va monter à 20-22%. On retrouvera probablement pas l'étiage du confinement, mais il y a une vraie volonté des entreprises d'installer le télétravail, mais avec des règles du jeu qui correspondent à leur réalité. Et pas avec des choses qui tombent du haut.
L'autre innovation, si je peux dire, c'est un protocole renforcé pour les moments de convivialité, principalement pour les moments de convivialité dans les cantines ou dans la restauration collective. Pour être très honnête avec vous, j'ai lu le protocole, je n'ai pas très bien compris ce que vous alliez véritablement devoir mettre en place de nouveau.
Alors, en fait, nous non plus, pour être honnête, parce qu'on a regardé, et honnêtement, les règles qui sont proposer le fait que les gens ne déjeunent pas l'un en face de l'autre, par exemple, qu'il y ait les masques qu'on ne touche pas, ou les aliments, ou bien les emballages. Tout ça, c'est des choses qu'on sait depuis longtemps et qu'on met en place depuis le mois de mai, en fait, depuis le déconfinement. Donc ce protocole, il est venu renforcer la distanciation sociale et, je crois, d'après ce que j'ai compris, le fait que vous devez mieux contrôler le nombre de personnes en même temps dans une même pièce, au nom des fameux 4 mètres carrés. Voilà ce que ça apporte. Mais ça ne change pas fondamentalement par rapport à ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Très honnêtement.
Est-ce que vous pensez que les nouvelles restrictions dans les zones concernées, en Île-de-France plus 8 métropoles, vont avoir un nouvel impact important dans nos relations au travail? Comment va-t-il falloir s'organiser encore en plus?
Alors, vous avez deux phénomènes, en fait. Vous avez un premier phénomène qui est que, comme pour des raisons qui ont été expliquées par le président de la République, on a réduit les interactions sociales privées et personnelles, on ne peut plus sortir après 21h, les entreprises vont encore plus être un lieu de convivialité parce que c'est là où les gens la trouveront. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on organise, comme on le fait déjà, une certaine convivialité renforcée au sein de l'entreprise. Ça, c'est le premier phénomène. Ça donne un nouveau rôle à l'entreprise, d'une certaine manière. Et puis le deuxième, c'est les impacts que ça peut avoir, je pense notamment à l'Île-de-France, en termes d'organisation du travail. Parce que vous avez sans doute entendu que les théâtres essayent de démarrer à 18h, les cinémas essayent de démarrer à 18h. Enfin, vous avez tout un tas d'activités comme ça, même les restaurants sont en train d'essayer d'avancer pour avoir un minimum de dîner. Ça signifie que les gens vont avoir leur vie sociale privée plutôt entre 19h et 21h. Et donc, pour ceux qui habitent loin de leur travail, ça signifie qu'ils vont sans doute partir un peu plus tôt.
Donc, il va falloir adapter les horaires et se montrer un petit peu plus souple.
Il va falloir le faire le matin. Pour ceux qui habitent loin de Paris et qui viennent, vous connaissez les conditions de transport en Île-de-France, et puis pour le soir. Donc ça veut dire que ça va un peu dérégler les choses, de manière à pouvoir assurer quand même un minimum d'équilibre de vie privée, vie professionnelle, qui est un sujet central pour nos salariés pendant la période de couvre-feu.
Merci beaucoup Benoît Serre, vice-président de l'ANDRH, l'Association Nationale des DRH, d'avoir été en ligne avec nous. Je ne vous dis pas à demain, puisque demain, grande soirée foot en direct sur Europe 1. On se retrouve donc mercredi, 22h20.
Merci Emmanuel Duteil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr. 22h29 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Journaux qui titrent pour la plupart sur les suites de l'attentat de vendredi et l'assassinat de Samuel Paty. Terrorisme, l'heure de la riposte, peut-on lire en une de Libération. Opération de police massive, interpellation, projet de dissolution d'associations musulmanes. Le gouvernement a lancé l'offensive après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Contre l'islamisme radical, une offensive radicale, ajoute Libé, avec un bémol. L'exécutif risque de se heurter au droit. Dans son édito, Paul Quignot précise sa pensée. La nécessaire riposte sécuritaire face à un tel acte barbare ne peut se faire qu'avec l'appui du droit. C'est le propre d'une société démocratique. Or, c'est précisément pour des raisons de droit que l'interdiction de certaines associations déjà envisagées par le passé a échoué. De droit, il en est aussi question dans l'édito de l'Opinion signé Rémi Godot. Je vous en lis un extrait. Après tout, on se dit que, faute de protection et de soutien, on n'est pas obligé de jouer sa vie au nom de la liberté d'expression, qu'on n'est pas obligé de faire bloc, lassé par les récupérations politiciennes, la pression associative permanente, les atermoiements gouvernementaux, qu'on n'est pas obligé de défendre les yeux fermés un état de droit défaillant jusqu'à s'en laisser compter par l'entrisme d'une idéologie totalitaire, qu'on n'est pas obligé de croire que, cette fois-ci, les promesses de réaction seront suivies d'actions. Alors oui, contre cette résignation, l'État doit agir vite et fort. Partout, il doit faire prévaloir le droit, tout le droit, sans accommodement et exception, rien que le droit, parce que le respect des principes démocratiques reste le meilleur des remparts et le ferment de la résistance. Voilà, c'est à lire demain dans l'Opinion. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Ça va très bien, ça va bon. Très bien. La Libre Antenne débute donc dès maintenant et c'est encore et toujours le 39-21 pour venir vous appeler et témoigner dans votre Libre Antenne.
Exactement Julien, et puis on se retrouve tout à l'heure pour le flash à partir de 23h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.